autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver dans la chaleur de l'été pour reprendre un petit coup de froid, ça peut pas faire de mal. Autour de l'exposition Sur le froid à la Cité des Sciences à Paris, nous étions demandé, c'était en janvier dernier, quels étaient les effets du froid sur les organismes vivants, comment y résister et pourquoi le fabriquer, pourquoi le froid extrême jusqu'au zéro absolu intéresse-t-il tant les physiciens, climatologues, mais aussi les professionnels de la santé et de l'alimentation. Comment le froid est-il devenu omniprésent dans nos sociétés, été comme hiver et sur toutes les latitudes, plongées dans l'univers du froid, avec nos invités, le médecin explorateur Jean-Louis Etienne et les physiciens Laurence Fournaison et Julien Bobroff, autour de la question « Qu'est-ce que le froid ?» Bienvenue pour réécouter au frais cet entretien croisé. Bonjour Laurence Fournaison.
Bonjour.
Bonjour Julien Bobroff.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous autour de cette exposition Froid à la Cité des Sciences. Nous sommes également en ligne avec Jean-Louis Etienne, médecin explorateur qui a expérimenté le froid polaire. Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Vous faites tous les trois partie du comité scientifique de cette exposition sur le froid qui n'est pas vraiment une notion scientifique. Alors comment le définissez-vous chacun? De quel froid vous occupez-vous? Laurence Fournaison, vous êtes physicienne, énergéticienne, responsable de l'unité de recherche sur le génie des procédés frigorifiques à l'IRSTEA. Vous, c'est donc le refroidissement qui vous intéresse, le froid alimentaire de nos frigos, celui de la climatisation, de plus en plus présent dans nos vies. Comment est-ce que vous définiriez le froid selon sa température? Est-ce que ça existe d'abord, le froid, Laurence Fournaison?
C'est une très bonne question. Le froid en tant que tel n'a pas de définition. Le froid, c'est un ressenti, c'est plus une question d'extraction de chaleur que de froid à proprement parler. Et on est nous-mêmes un peu embêtés parce que le froid, on ne sait pas, vous avez froid dans certaines conditions, j'ai froid dans d'autres conditions.
Donc c'est subjectif.
Le froid, c'est absolument subjectif. Néanmoins, comme vous le suggériez tout à l'heure, on a des gammes, des échelles de température auxquelles nous nous intéressons. Et à STEA, nous nous intéressons au refroidissement dans le domaine de la chaîne alimentaire et aussi sur le refroidissement des ambiances pour le bien-être de l'homme.
Dans quelle échelle de température le froid pour vous c'est
donc les échelles en termes de climatisation, on va aller jusqu'à notre chaud va être aux environs des 25 degrés et le plus froid vers lequel nous descendrons pour conserver des produits alimentaires en congélation vont vers les moins 30.
Moins 30. Jean-Louis Etienne, on va vous demander ce que vous en pensez parce que vous, c'est la perception du froid par les humains qui intéresse le médecin explorateur que vous êtes. Vous avez vous-même expérimenté aux limites, en solitaire, au pôle Nord, en Arctique, mais aussi au pôle Sud, dans l'Antarctique, et le froid extrême. Alors votre froid à vous, le maximum que vous ayez supporté, Jean-Louis Etienne, c'est combien? C'est moins combien?
Alors, la plus basse température que j'ai connue sous la tente un matin en allant au pôle Nord, c'est moins 52. C'était au début du mois de mars, donc ça correspond à la fin de l'hiver arctique, et c'est très froid. Hein.
C'est monstrueux. Et oui, comment y résister? Ça fait partie aussi de vos interrogations sur ce que peut supporter le corps humain?
Ben, si vous voulez, le corps humain, il ne peut pas supporter grand-chose, parce que nous sommes tous des homéothermes. Ça veut dire que la température de notre corps, elle est calée à 37. Et il n'y a pas de superman du froid qui pourrait tout d'un coup se satisfaire de vivre plus bas. 37 degrés, si vous voulez, c'est une température très chaude, mine de rien. Donc, je dis tout le temps, j'invite à ceux qui nous écoutent à la maison à remplir un bol ou une bassine avec de l'eau à 37 degrés, d'y tremper la main, on se rend compte que c'est chaud. Et donc, nous sommes, nous, condamnés à rester avec ce thermostat calé à 37. Donc, on ne peut que composer avec le froid. Mais ça reste effectivement quelque chose qui est très déplaisant, qui est lourd. Et dans les régions froides, il faut vraiment quelque chose à faire, à y faire, à avoir un intérêt. On n'y va pas parce qu'il fait froid.
Pour y tenir dans le froid. Alors là, on va en arriver maintenant au froid le plus bizarre, le plus extrême possible avec vous, Julien Bobroff. Vous êtes physicien, expert en supraconductivité, professeur à l'Université Paris-Sud, au laboratoire de physique des solides à Orsay, où vous animez un groupe de recherche pour présenter la physique autrement. De quel froid? Comment présenter le froid dont vous vous occupez? C'est un froid extrême. Quelle température?
Ah oui, le froid dont on s'occupe, ça n'a rien à voir avec le froid qu'évoque Laurence ou Jean-Louis. Notre froid à nous, si je le mettais dans la même échelle, on serait vers moins 270, moins 271 degrés.
Ça existe.
Mais
ça.
On n'utilise même plus cette échelle-là. Nous, on essaye d'adopter une autre échelle qui va être l'échelle des Kelvin, dont on va reparler plus tard. Et l'idée, c'est de s'approcher le plus possible du zéro absolu. Cette espèce de frontière infranchissable qui est vers moins 273,15 degrés. Et c'est à quel point on va pouvoir s'approcher du zéro absolu qui va permettre de découvrir cette physique fascinante des très très basses températures.
Où tout change, dans ces très basses températures, autour de la question qu'est-ce que le froid et jusqu'où va-t-il nous entraîner? Réponse frissonnante des visiteurs de l'exposition Froid, recueillie par Alice Podicki et remixée avec le film d'animation de l'exposition par Apolline Verlon-Raison, mix forcément glacial et frigorifique.
Moins 15, moins 20, je reviens dans le froid.
Vous faites quoi?
Frigoriste.
Quand tu trouves qu'un objet est froid, c'est parce que sa température est inférieure à celle de ton corps. Et qu'en touchant cet objet, tu lui donnes un peu de ta chaleur.
C'est avec une certaine matière, on a froid ou non. Alors là, j'ai de la polaire.
Et alors dans la boîte, il y a un peu de vent. On voit qu'il y a du vent.
Bah là, je sens le vent. Là, je le sens avec la polaire, ouais. Ouais, j'ai froid, là. Et si j'essaye avec autre chose... Doudoune. Là, j'ai pas froid.
La température nous renseigne sur le comportement des particules microscopiques qui composent la matière. Toute la matière, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, est composée d'atomes et de molécules qui bougent constamment. Plus un objet est chaud, plus ses particules sont agitées. Wouhou ! Mais même dans les objets les plus froids, elles vibrent toujours un peu.
On voit les grandes congélations, moins 25. Au bout d'une demi-heure, on sort. Hein. Ça pique, ça gèle, on sent plus le bout de ses doigts, on sent plus le bout de ses pieds, donc... ça doit être la circulation, mauvaise circulation du sang, et après quand on sort, quand on tire les gants, choses comme ça, ça brûle, le sang doit recirculer, ça a un effet de chaleur, de picotement au niveau des doigts, des pieds, qui est fort désagréable.
Est-ce que tu pourrais dire quand est-ce que tu as froid?
Alors, quand j'ai froid, ça veut dire quand il y a de la pluie ou de la tempête de neige. Quand j'ai froid, des fois, j'ai la chair de poule. T'as des petits boutons ici, il devient un peu gros.
Tu sais maintenant que plus la matière est chaude, plus les particules sont agitées. Et que la chaleur est une énergie qui s'écoule du chaud vers le froid. Et à propos de chaud et froid, connais-tu l'expression « ça ne me fait ni chaud ni froid » ?
Ça nous fait froid aujourd'hui puisque c'est le froid que nous mettons en question, le froid naturel et le froid fabriqué qui prend de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes, Laurence Fournaison.
Oui, le froid aujourd'hui représente en consommation électrique, je vais donner quelques chiffres.
En la consommation, parce qu'en fait c'est de l'énergie, pour produire du froid il faut de l'énergie.
Pour produire du froid il faut de l'électricité, de l'énergie. Et la consommation électrique dédiée au froid est aujourd'hui dans les pays industrialisés de l'ordre de 17%. Et ce qui est absolument colossal, et un des premiers utilisateurs de ce froid, c'est l'industrie agroalimentaire, puis l'industrie pharmaceutique. Et on se rend compte que finalement, ce froid fabriqué est utilisé dans de grands champs de disciplines, dans de très très, très nombreuses applications qu'on ignore à ce jour.
Et donc aujourd'hui, il faut réfléchir à la manière de produire du froid dont on a tant besoin, mais de manière moins énergivore, c'est ça?
Tout à fait. Les recherches que nous menons à RCA sont de développer des systèmes frigorifiques qui consomment moins, qui ont une meilleure efficacité énergétique. Et ce qui est d'autant plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un réchauffement climatique et qu'une augmentation de 3 degrés de la température amène à une augmentation de la consommation de l'ordre de 10%. Donc, on se rend compte qu'il y a urgence absolument à travailler sur l'efficacité énergétique des machines. Donc, ça va être travailler sur les composants de la machine, sur son optimisation, de manière à pouvoir produire du froid en apportant le moins d'énergie possible au système.
Alors le froid, on va y revenir, il est très difficile à vivre, à subir pour l'homme, comme nous disait Jean-Louis Etienne qui est avec nous au téléphone. Mais en même temps, le froid, les hommes, les humains, ils ont compris depuis toujours que ça conservait. que ça conservait les aliments, que c'est une manière de conserver.
Oui, on s'est rendu compte, quoi, les hommes préhistoriques se sont rendus compte, eux, que conserver la viande au fond d'une grotte, où la température était plus fraîche, permettait de conserver un peu plus longtemps. Puis petit à petit, l'homme a pu se rendre compte aussi qu'en trempant les produits carnés dans des rivières, voire en mettant des poissons près de la neige, on conservait beaucoup plus longtemps les denrées alimentaires. Donc il y a eu vraiment une association froid et conservation des produits alimentaires, jusqu'à ce qu'on arrive à se rendre compte qu'il pouvait être important finalement de conserver la neige lorsqu'on avait de la neige, ou de la faire venir de différentes contrées où il y avait de la neige, et de la stocker dans les glacières. Donc ça veut dire que c'était un grand puits dans lequel on stockait la glace et qui arrivait à durer à peu près l'année. Et dans les légendes, on raconte que Louis XIV mangeait des sorbets dans sa cour à Versailles de cette glace qui était stockée dans les glacières.
Et le froid a toujours fait marcher, finalement, nous a poussé aux limites et a poussé aussi l'inventivité, l'innovation humaine.
Voilà, donc conscient que ce froid était important pour conserver les produits alimentaires, il y a les premières inventions au moment de la révolution industrielle, fin du XVIIIe siècle. On a inventé la première machine à fabriquer du froid, et petit à petit est venue l'industrialisation jusqu'au premier navire qui a réussi à transporter de la viande d'Europe vers les États-Unis. Et s'est développé donc près des rivières, où on arrivait avec les bateaux, des stockages de glace. On vendait la glace pour pouvoir conserver les aliments.
Autour de la question, qu'est-ce que le froid, on continue de s'interroger en musique, si vous le voulez bien, avec les White Stripes sur RFI, A Cold, Cold Night.
I saw you standing in the corner, on the edge of a burning light. I saw you standing in the corner, come to me again in the cold, cold night. Cold, cold night. You make me feel a little older, like a full-grown woman might. But when you're gone, I grow colder. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. Creaking of the kitchen floor. I don't care what other people say. I'm gonna love you anyway. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night.
Cold Night sur RFI, les White Stripes, autour de la question du froid, en compagnie des physiciens Laurence Fournaison et Julien Bobroff, également du médecin explorateur Jean-Louis Etienne, qui est avec nous par téléphone. Tous trois sont membres du comité scientifique de l'exposition Froid à la Cité des Sciences. Et tout de suite, une nouvelle question pour vous, messieurs, dames, soulevée par Mathilde Fontaise, du mensuel Science et Vie.
Quel est l'endroit le plus froid sur Terre, ou dans l'univers même?
Qui veut répondre? Jean-Louis Etienne, peut-être, vous qui avez pratiqué...
Moi, je peux répondre sur Terre. Sur Terre, l'endroit le plus froid, il est en Antarctique, donc au pôle sud. C'est à la base, ça a été mesuré à la base scientifique russe de Vostok. Moins 89,9, c'est extrêmement froid.
Moins 89,9. Un homme pourrait résister à moins 89?
Ça dépend comment vous êtes équipé.
Oui, clairement.
Si vous voulez. Non, on ne peut pas résister, bien sûr. Tout dépend de l'équipement que vous avez, mais dans ces cas-là, ils ne sortent pas, si vous voulez, mais ça a été mesuré. Il faut dire aussi que c'était en pleine nuit polaire, et l'Antarctique est une énorme calotte de glace, donc c'est en plus à près de 3000 mètres d'altitude, ce qui explique ce froid extrême.
Et donc évidemment, vous nous répondez sur Terre, hein, puisque vous avez été au pôle Nord comme au pôle Sud. Est-ce que dans l'univers, il y a des froids plus Julien Bobrov, est-ce que dans l'univers, il fait plus froid que ça encore?
Alors, l'univers, il fait très froid. En fait, l'univers, ça dépend si vous vous abritez du soleil, parce que le soleil va vous réchauffer quand vous êtes dans le vide. Mais sinon, on est dans un endroit où il y a très peu de particules, mais on est à des températures incroyablement basses. On est à 2, 3 degrés du zéro absolu. La seule chose qui continue à vous réchauffer un petit peu, c'est des rayonnements fossiles qui viennent du Big Bang, en fait.
Premier rayonnement de l'univers.
Voilà, et qui, eux, continuent à chauffer à quelques degrés du zéro absolu.
Alors, quand vous parlez du zéro absolu, Julien Bobrov, c'est quand même une notion. On ne parle pas du tout du zéro que l'on connaît, nous, en degrés Celsius. Vous parlez en degrés Kelvin, c'est ça ?
On parle en degrés Kelvin. Alors, cette idée de zéro absolu, elle peut sembler curieuse, hein, l'idée qu'il y a une espèce de palier infranchissable.
Qu'en dessous, ça existe. C'est-à-dire qu'en dessous, ça, on ne peut pas.
On
c'est
peut pas
possible.
Mais en fait, c'est assez logique quand on y pense, parce que. Le froid ou le chaud, en fait, c'est la température, d'accord ? Et une basse température, c'est quand les particules de la matière bougent moins qu'une haute température. Si vous prenez une casserole que vous sortez de votre frigo et que vous regardez les atomes dedans, ils vibrent un petit peu moins que la casserole qui est sur le feu.
Voilà pourquoi ça gèle quand il y a de l'eau, enfin, ça s'arrête, ça se fige.
À un moment donné, ça se fige. Mais même quand ça se fige, la matière, les atomes continuent de vibrer légèrement. Et si vous refroidissez, vous pouvez arriver à un moment où les atomes ne bougent plus du tout. Et c'est cet endroit-là que les physiciens appellent le zéro absolu. Et il se trouve que, manque de chance, au tout début, les unités, on les avait attribuées en utilisant ce qu'on avait autour de nous. Donc on avait dit que le zéro, c'est quand l'eau se gèle, ce qui est un bon repère pour tout le monde, inventé par Celsius. Sur cette échelle-là, ce zéro absolu, quand les particules ne bougent plus du tout, il est vers moins 273 degrés. Alors pour compléter quand même la question, est-ce que le froid le plus intense dans l'univers, finalement, ça serait entre les planètes quand on est un cosmonaute ? En fait, non, il suffit d'aller dans un laboratoire de physique au coin de la rue et vous allez avoir là des froids fabriqués par les physiciens qui peuvent être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus froids que n'importe où dans l'univers.
Et pourquoi ça intéresse les physiciens d'aller aussi loin dans le froid, dans un froid qui n'existe pas à l'état naturel, entre guillemets,
Alors ça devrait être complètement inintéressant, je dois être honnête avec vous, ça devrait être un mortel ennui, parce que si vous refroidissez énormément, il n'y a plus rien qui bouge, donc plus rien ne se passe. Donc au départ, les physiciens très modestes se sont dit, on va quand même aller vérifier. D'accord ? Et les premiers physiciens à vraiment avoir été à très basse température pensaient qu'ils n'allaient rien y découvrir d'intéressant, mais ont quand même eu ce courage incroyable de scientifiques de monter des labos incroyables pour l'époque.
Oui, parce que comment on le fabrique, c'est compliqué.
On le fabrique avec des techniques proches de celles des frigos, mais un petit peu plus compliquées et exigeantes. Et on arrive au début du XXe siècle à aller à quelques degrés du zéro absolu. Et là, le coup de chance, la surprise incroyable qu'ont eu les physiciens, c'est qu'en fait, quand on se rapproche incroyablement du zéro absolu et que tout devrait mourir et se figer, soudain apparaissent des nouveaux phénomènes absolument spectaculaires, parce que très près du zéro absolu, en fait, se révèle la physique quantique. C'est le règne de la physique quantique, et qu'à ces températures-là, la physique quantique va se révéler à nous.
Parce que du coup, la matière étant tellement différente, il n'y a rien qui bouge, mais ça bouge autrement, ou dans d'autres états de la matière, c'est
Alors
ça
Alors non, en fait, c'est qu'une fois que vous avez calmé les atomes, les électrons peuvent commencer à s'amuser. Et les électrons peuvent révéler leur caractère quantique, ou les atomes eux-mêmes. Votre problème avec la chaleur, c'est que vous faites vibrer les atomes, donc ils bougent dans tous les sens, donc ça tue souvent les effets de la physique quantique. Alors que si vous calmez tout le monde, cette physique quantique, qui elle existe à toute température, va se révéler.
Voilà l'intérêt. Mais en science, de toute façon, le froid, comme le chaud, mais le froid a un intérêt particulier pour de nombreux chercheurs, dans de nombreux domaines.
Alors dans de nombreux domaines, donc moi le domaine que je préfère, c'est celui où on va utiliser les basses températures pour révéler la physique quantique et découvrir des nouveaux effets. Mais le froid sert à plein d'autres choses. Par exemple, il sert à calmer vos instruments de mesure et à les rendre meilleurs. Si vous refroidissez un instrument de mesure, souvent il va être bien plus performant. Les meilleurs microscopes au monde sont refroidis à quelques degrés du zéro absolu. Les meilleurs capteurs de lumière sont souvent des objets refroidis là aussi à 1 ou 2 degrés du zéro absolu, et dont la moindre élévation en température va nous renseigner sur la lumière qu'ils captent.
Donc on en reste à l'idée aussi de conservation, enfin d'arrêt, de gelée, on peut l'imaginer comme
calmer
ça.
Calmer pour mieux mesurer. Moi j'aime bien cette idée-là, c'est que vous calmez votre instrument de mesure et qu'en faisant ça, vous pouvez détecter des pouillèmes venant de l'univers.
Calmer pour mieux mesurer. Nous voilà dans l'univers quantique à cause du froid. On continue de s'interroger justement sur ce froid-là et sur tous les froids possibles et imaginables. Comment y résister, pourquoi et comment le fabriquer, en compagnie de nos invités. Le médecin et explorateur Jean-Louis Etienne, qui est avec nous par téléphone, et les physiciens Laurence Fournaison et Julien Bobrov, qui nous entraînent aux limites, jusqu'au zéro absolu. Sondage réfrigérant auprès des visiteurs de l'exposition, recueilli par notre reporter Alice Podziki.
La température la plus basse qui puisse exister ?
50 moins degrés.
Moins 50 degrés ?
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe à moins 50 degrés à ton avis ?
Bah, il neige.
La plus basse ? C'est dans le cosmos là-haut ?
Ah non, c'est
moins 40. Moins.
Au Canada, moins 40 degrés.
Moins 40, oui, mais c'est au sol. Par là-haut, dans le truc, c'est à moins de 250, je sais pas, un truc comme ça.
À votre avis, c'est quoi la température la plus basse ?
Zéro absolu.
C'est quoi le zéro absolu ?
Bah, c'est la température la plus froide que... Enfin, j'arrive pas à décrire. Y a rien qui peut être plus froid que le zéro absolu.
Et c'est à combien ? C'est à moins combien ?
Moins 280... un truc dans le genre.
Monsieur, vous avez la réponse ?
Ah, je dirais moins 273, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, oui.
Virgule 15.
Moins 273,15 degrés Celsius, voilà, zéro absolu, Julien Moreau. Ils sont quand même pas mal, les visiteurs de l'exposition
Froid. Bon, hein. Ouais, ils sont impressionnants. Ce qui compte, en fait, c'est pas ce chiffre-là qui peut sembler un petit peu artificiel, c'est à quel point on s'en approche, et on sait s'en approcher actuellement dans certaines expériences, par exemple dans des gaz, à moins d'un milliardième de degré du zéro absolu. Ça veut dire que si on oublie cette échelle un peu bizarre de moins 273, on va être 100 milliards de fois plus froid que dans cette pièce. Si vous regardez les atomes dans cette pièce autour de nous et qu'on voit comment ils bougent, ouais. Et ben ils vont bouger 100 milliards de fois moins.
Enfin, on les voit pas les atomes, mais ils n'arrêtent pas de bouger parce qu'il fait plus de 20 degrés.
Parce qu'il fait 20 degrés, donc à mon échelle à moi, il fait 300 Kelvin et on va savoir descendre à le record, je crois que c'est 500 nano-Kelvin. On est à 500 pico-Kelvin, même on est à moins qu'un milliardième de degré du zéro absolu.
Là, je vous suis pas là, c'est tellement étrange. Et est-ce que ça se conserve du froid comme ça ? Enfin, aussi absolu qu'aussi extrême.
Faut être très prudent quand on le fabrique, il faut l'isoler, il faut le mettre dans des très bons thermos, il faut le protéger et c'est toute une technologie pour créer des froids aussi redoutable. Alors évidemment, c'est juste pour faire cet exploit du froid, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui va y arriver, ce qui va se révéler, comment la physique va se comporter. Et là, on va découvrir des choses tout à fait surprenantes. Par exemple, les métaux, la plupart des métaux, quand on les refroidit à cette température, soudain se mettent à superconduire. Quand on va mettre du courant dans une boucle de métaux de ce genre-là, un supraconducteur, le courant va rester piégé jusqu'à la fin des temps. Quand on va approcher un aimant de ces métaux-là, l'aimant va se mettre à léviter. Si on prend un
liquide... C'est de la physique ou de la métaphysique?
Ah non, c'est de la vraie physique. Oh là là, non, surtout pas de la métaphysique. D'accord. C'est de la vraie physique qu'on peut faire en laboratoire. Quantique. On peut même la faire au grand public. Les gens qui viendront à l'exposition, cette expérience-là, elle est faite par les médiateurs à moins 200 degrés en direct devant le grand public. C'est des expériences qu'on fait régulièrement et qui sont liées à la physique quantique, qui sont liées au fait que... À ces très basses températures, la matière se comporte comme des petites ondes. On peut les imaginer comme des petites vagues. Chaque particule est une petite vague. Et parfois, elles vont toutes se mettre ensemble et former une grande vague géante. Et ça ne peut avoir lieu qu'à très basses températures. Donc en refroidissant la matière, on ne voit pas une vague apparaître. Mais ce qu'on voit, c'est toutes ces manifestations indirectes. Elle va emmener le courant, cette vague, de façon parfaite. Elle va faire léviter les aimants. Ou si on crée cette vague dans un liquide, comme l'hélium va soudain ne plus frotter à rien et pouvoir passer à travers le fond d'une tasse ou remonter le long des parois. Donc on va avoir plein de manifestations indirectes.
Mais on peut avoir un verre qui fuit, parce que c'est du gaz en fait.
C'est du liquide, mais qui se glisse entre les atomes. On parle de superfluide.
Ah, donc on va avoir des effets. C'est ni du liquide ni du gaz.
Enfin, c'est un liquide, mais qui ne frotte plus. Un liquide qui ne frotte plus par définition. Même si je lui laisse un nanomètre pour passer, il se glisse et il passe. Si vous avez une paille qui fait un nanomètre de diamètre, un milliardième de mètre, elle arrive quand même à couler à travers la paille.
Donc expérience à voir sur place dans l'exposition Froid. Je sais aussi que vous avez sur votre site vulgarisation.com et la physique autrement, pas mal d'expériences assez bluffantes. Laurence Fournaison, quand vous vous intéressez à la chaîne du froid, on n'est évidemment pas dans ces températures-là, mais il s'agit là quoi, de conserver, que le froid se conserve.
Oui, tout à fait. Le froid conserve les aliments. En fait, le froid ne tue pas les micro-organismes, il les ralentit.
Contrairement à ce qu'on croit.
Exactement. Et on est un peu dans la même vision que ce que présente Julien, en disant plus il fait froid, plus on est endormi, plus on se recroqueville sur soi. Donc le micro-organisme qui est dans la viande, il va se recroqueviller, il va se développer moins vite que s'il était à température ambiante. Donc le froid permet de conserver plus longtemps les produits alimentaires. Et 60% de notre bol alimentaire passe par une chaîne du froid à un moment ou une autre.
D'où l'importance qu'elle soit bien gardée, cette chaîne du froid. Quels sont les organismes qui résistent le mieux ? Est-ce qu'on le sait, ça, au froid ? Entre ceux, justement, comme vous dites, qui se recroquevillent
Disons que Les produits les plus sensibles, ce sont les produits carnés, les produits à base de poisson et les produits dans lesquels il y a des œufs. Donc tous ces produits-là sont très fragiles, très thermosensibles, et il est impératif de les conserver à des températures entre 0 et 4 degrés. Dans votre réfrigérateur, il doit faire entre 0 et 6 degrés parce qu'il y a des zones un peu plus chaudes. Les produits, n'ont pas, comme le beurre, n'ont pas besoin d'être conservés à des températures aussi basses que la viande ou le poisson. Mais juste encore un chiffre, mais je ne vais pas vous embêter plus que ça. 60% de nos réfrigérateurs ne sont pas à la bonne température.
Et oui, en fait, on ne le vérifie pas et on a des réfrigérateurs qui sont quoi, un peu plus...
Qui sont plus chauds que les 6 degrés qui sont recommandés par l'état sanitaire.
Hein. Et c'est un danger parce que justement, tous ces petits organismes, ils sont juste endormis, ils peuvent se réveiller facilement, c'est ça?
Ils ne sont pas complètement endormis, ouais. ils s'activeront un peu plus que s'ils étaient entre 0 et 4 degrés. Donc, des produits carnés, leur durée de vie va être limitée. Alors que l'on pense que ce placard froid va nous permettre de conserver des aliments suffisamment longtemps.
Donc attention, d'où l'intérêt aussi de s'intéresser à cette chaîne du froid. Vous me l'avez dit quand on a préparé cette émission, qui est très bien finalement observée du côté des industriels. Enfin là, ça marche. Et c'est dans nos frigos et chez les consommateurs que ça pose problème.
Un produit, lorsqu'il est fabriqué en usine, il subit plusieurs maillons, ce qu'on appelle les maillons de la chaîne du froid. Donc il y a l'entrepôt au niveau de l'usine, plus un camion, un autre entrepôt, un camion, le supermarché. Et on arrive ensuite à nous-mêmes qui achetons les produits et l'amenons dans notre réfrigérateur. Donc tout ce qui est fait, la phase industrielle, jusqu'au supermarché. Là, on a des maillons quasiment irréprochables, une industrie qui fonctionne très très bien. Là, après, ce sont nous consommateurs. Nous sommes vraiment de piètres consommateurs et ne savons pas conserver nos produits. Il faut savoir que tout de suite, après avoir fait ses courses, il vaut mieux vite aller ranger ses courses dans son réfrigérateur plutôt que d'aller faire d'autres courses qui mettent finalement en danger la qualité des produits alimentaires que nous mangeons.
Jean-Louis Etienne, quand vous êtes pour votre traversée de l'Arctique, hein. Vous êtes arrivé au pôle Nord en solitaire, j'imagine que vos aliments se conservaient facilement, c'était pas la question dans le froid.
Oui, la question, si vous voulez, ce qu'on essaie de conserver, c'est sa température.
C'est ça, la sienne, hein. Ouais.
La sienne, et donc vous vous rendez compte, 37 degrés quand il fait moins 45.
Oui, nous, notre corps humain est à 37 degrés. Hein.
Ouais. Ah oui, on n'y échappe pas. Si vous voulez, donc vous voyez la différence de température entre plus 37 et moins 40, par exemple, vous avez un delta de température énorme. Donc, ce qu'il faut faire, effectivement, il faut conserver son capital thermique, c'est-à-dire se couvrir. Et j'entendais parler de polaire tout à l'heure, quelqu'un qui avait froid avec la polaire. Ce qui est important pour se couvrir du froid, c'est faire du volume autour de son corps. L'air, c'est l'air immobile qui est l'isolant. Et donc, à l'extérieur, bien mettre un coupe-vent. Dès qu'il fait froid et qu'on est en situation d'attente quelque part, il faut se mettre à l'abri du vent. Le vent est notre ennemi. Le vent nous traverse, si vous voulez, et nous arrache nos calories. Donc, il faut avoir des vêtements appropriés, c'est-à-dire amples, avec un coupe-vent à l'extérieur. Et surtout aussi, il faut se nourrir. Plus il fait froid, plus, si vous voulez, on a besoin d'une ration calorique élevée. Et on se rend compte, sans aller au pôle Nord d'ailleurs, qu'on a faim de graisse. Le corps demande ce dont il a besoin. Tous les récits polaires, on retrouve la faim des graisses. On a besoin de corps gras, quelque chose que j'ai connu, où j'ai demandé du beurre, je me souviens, au cours d'un ravitaillement, et le corps humain le demande, et il n'y a pas besoin d'aller si loin. Si vous voulez, en été, on a besoin de fruits, de salades, de choses légères, et dès qu'arrive l'hiver, en ce moment, on est plus porté vers les daubes, les tartiflettes, les cassoulets, vous voyez, des choses qui sont beaucoup plus grasses, parce que les lipides, les corps gras, amène 9 calories au gramme, alors que les sucres n'amènent que 4. Donc le corps est assez bien fait. Donc il n'y a pas de Superman du froid, encore une fois. On est condamné à conserver ce capital thermique qui est très élevé. Notre thermostat est très haut, hein.
Pas de Superman du froid, dites-vous. Pourtant, Jean-Louis Etienne, quand vous l'avez expérimenté vous-même, dans votre chair, dans votre corps, c'était vraiment un froid extrême au pôle Nord. Vous l'avez d'ailleurs raconté dans un livre, Persévérer, et vous en faites une jolie lecture pour cette exposition Froid à la Cité des Sciences. Je propose d'écouter un extrait de cette lecture.
Cette nuit-là, j'atteignis l'insoutenable. Mon cerveau, engourdi par le froid, ne répondait plus qu'avec lenteur. Je venais de me réveiller pour la deuxième fois et je grelottais dans un sac de couchage humide. Il était seulement 23 heures. j'avais devant moi l'inquiétante perspective d'une interminable nuit glaciale. 7 heures d'immobilité. Dans le froid extrême, on ne trouve le salut que dans l'effort qui procure la chaleur. Là, j'étais condamné à l'inactivité et le jour n'était pas prêt de se lever. Pour limiter les pertes de chaleur, je me recroquevillais en position fœtale, incommodé régulièrement par une impérieuse envie d'uriner. Sans sortir du sac, je pissais dans une bouteille étanche que je me mis sur le ventre. L'urine chaude m'apporta un moment de réconfort qui m'aida à me rendormir d'un sommeil bref mais haché. Je me réveillais de nouveau en grelottant. Mes défenses faiblissaient à chaque nouvelle attaque du froid. Je commençais à m'inquiéter. Ma dernière barrière, c'était la parka que j'avais posée sur moi en guise de couverture. Je remettais sans cesse le moment de l'enfiler, car m'extraire du sac de couchage serait un moment de torture. Je sombrais progressivement vers une dangereuse apathie. Soudain, mon instinct de survie prit les commandes. Je sortis le buste du duvet. Dans l'enfer glacial de la tente, le froid était si lourd que j'eus le sentiment de soulever une chape de plomb. J'ai rapidement brossé le givre qui recouvrait la veste pour ne pas faire entrer davantage d'humidité dans le sac. L'eau est la pire ennemie du campeur polaire, car en l'absence de chauffage, on ne peut rien faire sécher. La vapeur d'eau du réchaud et celle de la respiration se transforment en une poussière de glace qui s'immisce partout. En enfilant cette camisole congelée, je sentis ma nuque et mes bras saisis d'une horrible rigidité cadavérique. Dans la lueur blafarde de la lampe frontale, je jetai un rapide coup d'œil au thermomètre posé sur le tapis de sol, dans un coin de la tente. Il indiquait moins 52 degrés. Il n'était que minuit. Même le temps semblait paralysé par ce froid sidérant.
Moins 52 degrés. Vous avez survécu, Jean-Louis Etienne, à cette nuit terrible. Encore une fois, c'est votre instinct de survie là, qui vous a fait survivre.
Oui, l'instinct de survie, oui. Bon, j'avais déjà de l'expérience de camping dans des conditions difficiles. Il faut être un super campeur pour aller au pôle Nord. C'est pas technique, si vous voulez, on tire son traîneau. Par contre, les conditions, surtout au début du mois de mars, extrêmes, font qu'on a toutes les tentations d'abandonner. Et
On peut s'acclimater à un froid pareil.
Alors, s'acclimater, moi j'avais fait une expérience avant de partir au pôle Nord et en revenant, on s'est rendu compte, donc, je suis resté 2 heures dans un caisson froid à plus 1 degré avec un petit vent. On a fait cette expérience avant de partir, donc j'avais lutté pour rester à 37. Quand je dis lutter, c'est mise en œuvre des tremblements, une consommation d'oxygène qui s'accélère, si vous voulez, mais j'étais resté à 37. Quand je suis revenu du pôle Nord, j'ai fait la même expérience et mon corps avait baissé le thermostat. La température de mon corps au repos était à 35,5. Si on me mettait aujourd'hui à 35,5, je serais en hypothermie et pas très clair. Mais vous voyez, c'est l'intelligence du corps...
Qui peut quand même s'adapter un peu.
S'adapter un peu. La fréquentation constante du froid fait que le corps baisse le thermostat pour avoir une dépense énergétique plus économe. Vous voyez, c'est ça. Par contre, on peut se désensibiliser. On peut se désensibiliser,
c'est-à-dire
que, oui, ce qui nous informe sur la température, c'est tous les petits thermomètres qu'on a sur la surface de la peau. Alors, quand on met les mains ou le visage sous l'eau froide, on ne sursaute pas, si vous voulez, ils sont habitués. Par contre, si on fait couler de l'eau froide dans le dos, alors là, c'est très désagréable. Alors, pour se désensibiliser, on peut prendre des douches froides tous les matins, par exemple. Donc, ça permet à ces corpuscules thermiques, ils sont dans une situation de cocon très confortable, de s'habituer à des températures plus basses. Mais ce n'est pas une acclimatation.
Il faut quand même du courage. Le froid est aussi un ennemi. Enfin, le froid conserve, le froid tue. On peut s'endormir. Vous auriez pu vous endormir engourdi à moins 52 degrés.
Si vous voulez, on peut s'endormir définitivement quand on est au bout de la lutte. Donne un exemple. Vous êtes dans votre chambre, vous dormez la fenêtre ouverte. En ce moment, il fait 7-8 degrés dehors, par exemple, dans votre chambre, il fait frais, vous retournez, je ne sais pas quoi, la couette glisse, et vous vous retrouvez pas couvert du tout. Donc votre corps n'est pas recouvert, il fait 8 degrés dans la chambre, vous n'allez pas mourir, vous allez d'abord être réveillé par le froid. Vous voyez, on ne meurt dans le froid quand on est au bout de la lutte, qu'on n'a plus de réserve, À ce moment-là, on s'endort définitivement. On appelle ça la mort blanche.
Mais quand vous dites, moi, j'ai résisté ou j'ai maintenu mon corps à 37 degrés, puis à 35,5, il y a une action volontaire ou c'est le corps tout seul qui...
Non, c'est le corps tout seul. C'est une autre acclimatation différente, c'est l'altitude, par exemple. Quand vous êtes en altitude, que vous êtes familiarisé avec la très haute altitude, votre corps met en œuvre des systèmes d'acclimatation au manque d'oxygène. Là, c'est des systèmes d'acclimatation, si vous voulez, aux basses températures. Mais le plus difficile dans ces expéditions, c'est quand on s'arrête. Quand on marche, même s'il fait moins 40, on n'a pas froid parce que le corps, à l'exercice, produit sa propre chaleur. Mais dès que vous vous arrêtez, que vous blottissez sous la tente, on n'a pas de chauffage, bien sûr, et donc on est à la température extérieure. Il y a un avantage, c'est qu'on est à l'abri du vent, donc ça donne déjà une sensation de meilleur confort, mais c'est l'immobilité qui est... Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous êtes immobile à un abri-bus, je ne sais pas quoi, vous attendez un bus, mettez-vous à l'abri du vent, ça c'est fondamental.
Merci beaucoup Jean-Louis Etienne, on va vous laisser puisque vous êtes par téléphone avec nous et que vous avez d'autres obligations. Je propose de nous quitter temporairement en musique autour de la question du froid, en frissonnant sur une très belle voix, celle de Marie Boynet, persane, chanteuse lapone d'origine Sami, qui revisite pour notre plus grand bonheur les musiques traditionnelles Sami du Grand Nord. depuis le Grand Nord, Marie Boynet Persen sur RFI, chanteuse Sami de Laponie, autour de la question du froid et de la science du froid. Comment le froid et la glace nous permettent-ils de comprendre et de mesurer les changements climatiques? C'est tout l'objet de recherche des glaciologues, mesurer les changements du climat passé dans les carottes de glace, d'où l'intérêt aujourd'hui dans cette période de réchauffement climatique de conserver ce patrimoine glaciaire pour les générations futures, un patrimoine qui fond évidemment. Je propose d'écouter à ce sujet l'éclairage du glaciologue Jérôme Chaplaz, qui avec ses collègues dans le monde entier, des Alpes à la cordillère des Andes en passant par l'Himalaya, a lancé un programme international pour sauvegarder une partie de cette glace en Antarctique. On écoute Jérôme Chaplaz.
Les glaciers sont comme des livres, en fait, dans lesquels les pages sont représentées par les couches de neige qui s'accumulent année après année. Et en fait, c'est un livre qui enregistre les conditions de l'environnement, les conditions climatiques, la composition de l'atmosphère, l'intensité des vents, énormément d'informations que l'on va chercher en analysant des petites traces, des petites impuretés présentes dans cette glace. Donc pour nous, c'est un livre dans lequel, en fait, on va prélever un échantillon en forant à l'intérieur. On prélève un cylindre de glace, que l'on appelle une carotte de glace, qui fait environ 10 cm de diamètre et qui descend jusqu'au socle rocheux, tout au long du glacier. Dans le cas du glacier qu'on a foré cet été, c'est 130 mètres de longueur de carotte de glace. Les pages les plus anciennes sont les pages qui se trouvent le plus au fond du glacier. Et en surface, on trouve la neige la plus récente qui est tombée pendant les semaines précédentes.
Tout ce que peut nous apprendre la glace, les glaciers évidemment, mais la glace sur les climats passés et sur l'évolution du climat en général. Vous aussi, Laurence Fournaison, je crois que vous aimez bien la glace et les glaçons.
J'aime bien la manger, oui.
Mais vous savez que le glaciologue Claude Lorius, qui a été un des premiers à travailler justement cette question du changement climatique et des climats du passé, on a eu l'idée en regardant fondre des glaçons de whisky dans un verre.
Oui, tout à fait.
Vous aussi, ça vous inspire ?
Moi, ça m'inspire beaucoup parce que j'ai travaillé depuis très longtemps sur le stockage de froid en utilisant la glace qui, on peut le constater, lorsqu'on met une boisson dans un réfrigérateur, elle met assez... C'est assez long à se refroidir. Par contre, lorsque vous mettez un glaçon dans votre boisson, vous voyez que l'effet est quasiment immédiat. Donc, il y a une très, très grande quantité d'énergie qui est disponible dans la glace lorsqu'elle change d'état. Donc, nous travaillons dans...
Ah oui, c'est comme ça qu'on l'explique. C'est l'énergie qu'on
c'est
trouve
l'énergie,
dans la glace.
On appelle ça la chaleur latente, l'énergie de changement d'état. Et ce qui relargue une très grande quantité d'énergie. Donc ça, ce sont des concepts sur lesquels nous travaillons. On peut s'intéresser à modéliser la façon dont un glaçon va fondre dans un verre d'eau. Il y a encore des thèses qui sont tenues sur ces sujets-là.
Parce qu'on n'a pas tout compris là-dessus encore.
On n'a pas encore tout compris.
Enfin, il reste encore à découvrir.
Il y a encore à découvrir. Et donc nous, sur nos activités, on travaille effectivement sur le stockage pour pouvoir stocker de l'énergie quand on a de l'énergie, par exemple, renouvelable qui est disponible avec le solaire ou l'éolien. Lorsque l'énergie n'est pas chère, ça nous permet, on peut stocker dans des grands, on appelle les matériaux changement de phase, mais la glace est un matériau qui change d'état. Et donc en période creuse, quand il n'y a plus de vent et plus de soleil, et ben on récupérera cette quantité d'énergie pour refroidir un entrepôt frigorifique, voire dans un camion frigorifique. Ce sont des alternatives qui sont possibles pour augmenter l'efficacité énergétique d'un système.
Oui, donc c'est vraiment une question qui est aujourd'hui extrêmement d'actualité, cette question du froid.
Oui, aujourd'hui, on est dans des politiques de lissage de la consommation d'électricité. Et tout système qui permet de stocker et de restituer de l'énergie, de l'électricité, est bienvenu. Et le stockage de froid par ces glaçons, ces matériaux de changement de phase, sont plus efficaces qu'une batterie électrique aujourd'hui.
Jérôme... excusez-moi, Julien Bobrov, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé. Vos recherches à vous, donc pour ce qui est des froids les plus extrêmes, on a parlé du zéro absolu, des supraconducteurs, de physique quantique, elles vont vous mener jusqu'où ?
Alors moi, j'ai arrêté de faire cette physique du froid, j'en ai fait pendant 20 ans, et maintenant je m'intéresse à comment en parler aux autres et comment l'utiliser comme un prétexte de vulgarisation. Mais mes collègues dans notre laboratoire, eux, continuent à utiliser le froid quotidiennement. Il y a cette idée toujours d'utiliser le froid pour aller découvrir des états de la matière qu'on ne connaît pas. On parlait de glace ici. Récemment, on a découvert des glaces de spin. C'est des choses tout à fait étranges, des analogues de glace où on a mis des petits aimants minuscules, on appelle ça des spins, qui vont s'organiser un peu comme feraient les molécules d'eau dans la glace et qui soudain vont présenter des comportements stupéfiants.
Dans la
glace. Soudain, dans une espèce d'analogue de la glace, on va parler de glace de spin, on va pouvoir faire un truc qu'on ne sait pas faire en physique habituellement, qui est séparer le pôle sud et le pôle nord d'un aimant. Quand vous cassez un aimant en deux, il vous reste deux aimants dans la main, chacun avec son pôle sud et son pôle nord. Normalement, la physique vous interdit de séparer les pôles, il y a une très belle loi de physique pour ça. Des physiciens ont réussi dans des glaces de spin à voir des objets qui ressemblaient à un pôle nord tout seul. Et donc, il y a cette idée à nouveau qu'à très basse température, des choses totalement anormales du point de vue de la physique vont se produire et vont être étudiées dans les laboratoires. Autre exemple d'objet très curieux qu'on étudie actuellement, les isolants topologiques. Alors ça, c'est des objets assez marrants. C'est des métaux, d'accord ? Quand on les mesure, ils vont être métalliques à la surface. Mais si on creuse dedans, à l'intérieur, ils sont isolants. Et à la surface, ils vont être métalliques et présenter des propriétés universelles, c'est-à-dire des propriétés où, quel que soit le matériau qu'on mesure, on retrouvera exactement la même mesure avec 10 chiffres après la virgule. Donc des phénomènes qui émergent comme ça de la matière, qui la transcendent en quelque sorte, et qui sont complètement universels et qui servent même à faire les meilleurs étalons qu'on connaisse au monde.
Grâce au froid le plus extrême, merci infiniment Julien Bobrov, Florence Fournaison, d'avoir été en direct avec nous sur RFI. Je rappelle à nos auditeurs internautes que l'exposition Froid, c'est donc à la Cité des Sciences, à la Villette à Paris, jusqu'au 26 août 2018, ça vaut le détour, au moins pour le frisson. Le lien est bien sûr sur notre page, avec également le lien sur votre page, votre site, hein, Julien Bobrov, La physique autrement ou vulgarisation.fr. Merci d'être venu partager un peu de froid et un peu de chaleur, puisque les deux vont ensemble, on l'a bien compris, dans notre studio.
Il y a souvent des moments où je tombe sur la grave, me relève, colère.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. La semaine prochaine, c'est Chantal Leroux qui me remplace avant les rediffusions d'été que nous sommes en train de vous concocter. Merci de votre curiosité, amis auditeurs. Votre écoute nous est précieuse. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Je vous souhaite un très bel été et vous retrouve en direct avec le plus grand plaisir le 3 septembre prochain pour partager ensemble de nouvelles interrogations sur RFI. Le prochain journal dans une minute.